Bien, je vois que le froid diminue le nombre de personnes présentes. C'est statistique. Je vous remercie pour ceux qui sont venus. Je vous avais laissé dans le feuilleton à la campagne électorale israélienne. Et je vous indiquais que l'autorité palestinienne avait maintenu ses distances pour ne pas apparaître interférée. Elle s'inquiète sur le ton militant envers les Palestiniens qui sont pris par les différents compétiteurs. De toute façon, l'opinion publique palestinienne, selon les sondages, est très sceptique sur les gains à attendre d'une victoire travailliste. Le sentiment général, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre Barak et Netanyahou. En tout cas, Barak, plus la campagne avance, plus il paraît l'emporter sur son compétiteur. Et de ce fait, se pose la question de savoir si l'élection directe du Premier ministre israélien se fera en deux tours ou un seul. Alors on fait des pressions sur les autres compétiteurs pour qu'ils se retirent de la compétition au poste de Premier ministre, puisqu'il y a d'une part il y a une compétition législative et une élection directe du Premier ministre. Le 14 mai 1999, le candidat arabe Béchara se retire de la course sans appeler pour voter pour Barak, mais en affirmant que les travaillistes se sont engagés à améliorer la situation économique et sociale des Arabes israéliens. Et le lendemain, l'autre compétiteur, Mordechai, annonce son retrait et son soutien à Barak. Et le dernier petit compétiteur, Benny Begin, le fils de Menachem Begin, qui représente le nationalisme radical des colons, se retire à son tour. C'était une candidature de témoignage doublée d'une hostilité viscérale envers Netanyahou, d'où l'absence de consigne de vote. Le Likoud accuse Barak de s'associer à l'ennemi d'Israël, Kebishara, et de vouloir former un gouvernement arabo-gauchiste prêt à créer un État palestinien à la lisière de Tel Aviv. Mais le candidat travailliste dément toute tractation avec le député arabe. En tout cas, le 17 mai, Barak l'emporte dès le premier tour avec une grande marge de supériorité, 1 790 020 voix, soit 56,1% des suffrages. Même sans le vote arabe, il aurait eu largement la majorité absolue. En fait, l'élection à la fonction de Premier ministre a tourné un référendum pour ou contre la personnalité de Netanyahou. Je vous lis un texte d'époque de l'écrivain israélien David Grossman qui va certainement vous intéresser. La personnalité de Benjamin Netanyahou a été au centre de la campagne électorale et l'a déterminée d'une manière que l'on n'avait jamais connue en Israël. Parfois, on avait le sentiment que les citoyens n'étaient pas sommés de décider de la poursuite du processus de paix ou non, ou du choix entre un État laïque et moderne et une théocratie obscurantiste, ou encore de se prononcer sur les actes et les manquements de Netanyahou, mais qu'ils étaient tenus d'exprimer leur avis sur le caractère de l'homme Netanyahou. En Israël, les débats sur la personnalité de Netanyahou se sont transformés en une sorte d'obsession nationale. Émergeait là une sorte de culte de personnalité à rebours, comme si cette énigme qui n'a jamais été dénouée jusqu'à son ultime fin et qui se trouve à la racine de son être avait exacerbé l'intérêt qu'on lui portait. Presque tout Israël ressentait le besoin déprimant de tenter d'élucider la personnalité de cet homme, ses motivations, ses retournements si fréquents, la nature de ses rapports à ses collègues, à sa femme, à sa fille d'un premier lit, ses mensonges qui se révélaient le jour même où il les débitait, de ces promesses nombreuses et contradictoires qu'il dispensait avec une insouciance prodigieuse et, semble-t-il, sans même s'interroger beaucoup sur la nécessité de les tenir. Il ne fait pas de doute que Netanyahou est un personnage doué et même brillant, mais c'est le populisme inquiétant qui l'a accompagné comme son ombre qui, en fin de compte, l'a rendu odieux, même parmi les supporters les plus ardents du Likoud. Puis, sa personnalité s'est instillée au cœur même de la personnalité nationale d'Israël comme société, comme État, et a légitimé certains vices qui, sous gouvernement, ont éclaté avec une puissance effrayante. Les normes du mensonge et de la duplicité qu'il a instaurées, le dédain absolu de ses promesses et de ses engagements, le culte vaniteux de la force, l'obsession de l'image et de la seule image, et cette aversion étrange, suicidaire à certains égards, que Netanyahou a exercée contre les élites du pays. Ces mauvais errements ont déstabilisé la société israélienne et y ont inoculé un sentiment profond de déliquescence et de désarroi. C'est l'un des paradoxes qui ont marqué son ère. La personnalité de Netanyahou a produit le contraire de ce que le politicien Netanyahou promettait à son peuple. Je trouve que ce texte pourrait être appliqué à d'autres pays et à d'autres personnalités, et que la notion d'un culte de personnalité à rebours pourrait être intéressant pour le cas français, par exemple. Nous allons maintenant passer au chapitre suivant, qui est Ehud Barak au pouvoir. Là, vous avez sa photo au moment où il reçoit l'annonce des résultats. Il est à côté de sa femme. Ce qui est essentiel pour la suite des événements, c'est que le vote est une victoire personnelle de Barak, mais qui ne s'est pas répercuté pour son propre parti. Alors que les travaillistes disposaient de 37 sièges sur 120 dans la précédente législature, ils n'en ont plus que 26. Et le Likoud passe de 27 à 19. Le grand vainqueur est le parti religieux Ch'ass, qui gagne 7 sièges, passant de 10 à 17, ce qui est un véritable référendum contre la condamnation de son chef, Aryeh Deri. Le reste est très dispersé. Le Meretz a 10 sièges, plus 1. Israël Balaya, les Russes de Sharansky, le Chinoui, le parti du centre, ont 6 sièges chacun. Les autres partis font encore des scores plus faibles. La combinaison des ethnoclasses et des oppositions de vision du monde entre laïcs et religieux accroît la dispersion, empêchant l'émergence de partis de gouvernement. Le processus de paix, dont le contour final reste nébuleux, a eu un rôle moins clivant que le choc frontal entre les sécularistes et les religieux, qui veulent un État fondé sur la loi juive et non sur la démocratie. Or, les sécularistes se trouvent dispersés à gauche, à droite et au centre, et se divise sur tous les autres sujets. Gestion de l'économique et du social, processus de paix. Ainsi, on va avoir l'occasion d'y revenir, les Russes sont très sécularistes, mais ils sont ultranationalistes, tandis que la gauche est séculariste, elle est plutôt partisan du processus de paix. Donc, la division des sujets d'intérêt accroît la division du champ politique. Immédiatement après l'annonce des résultats, Netanyahou annonce son retrait, au moins provisoire, de la vie politique. Ariel Sharon prend la direction par intérim du Likoud et sera ensuite confirmé dans cette fonction par les instances supérieures du parti. Donc, Sharon va prendre, à partir de ce moment-là, la direction du Likoud. Dans son discours de victoire, Barak s'est placé sous le patronage de Rabin, dont il se proclame l'héritier. Il proclame son intention d'agir vite pour une séparation avec les Palestiniens, avec 4 lignes rouges sécuritaires, une Jérusalem unifiée, capitale éternelle d'Israël, non-retour aux lignes du 4 juin 67, pas d'armée étrangère à l'ouest du Jourdain, la plus grande partie des colons restant dans des blocs de peuplement sous souveraineté israélienne. Tout accord sera soumis à un référendum. C'est ce que les Palestiniens vont appeler les 4 noms de Barak, allusion aux fameux trois noms de Khartoum en septembre 1967. Mais il est intéressant de noter que maintenant les positions se sont inversées et que ce sont les Israéliens qui paraissent dire non et non plus les Arabes. En tout cas, la réponse palestinienne est immédiate. Avant toute négociation, il faut appliquer les accords de Wai et ainsi qu'un gel de la colonisation. La méfiance est immédiate envers le nouveau Premier ministre. Et de toute façon, pour les adversaires du processus de paix comme le Hamas, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche israélienne. Si l'Égypte et la Jordanie se félicitent de l'élection, la Syrie et donc le Liban manifestent un profond scepticisme et annoncent qu'ils jugeront la nouvelle politique à ses actes. De toute façon, Barak annonce qu'il ne prendra aucune initiative politique avant la formation du nouveau gouvernement. Il se déclare prêt à examiner les accords de Wai et renouvelle son engagement à retirer l'armée israélienne du Liban Sud. Le soldat le plus décoré d'Israël est imbu de sa personne et possède une grande confiance en lui-même. Il ne se veut ni faucon ni colombe, mais avant tout le meilleur défenseur de la sécurité d'Israël. Il a un délai de 45 jours pour former un nouveau gouvernement, ce qui donne la date limite du 8 juillet, et tente d'avoir la coalition la plus large possible. Cela exclut les Arabes israéliens, dont on considère que le vote sera captif s'il y a un référendum sur le règlement final, et on se souvient de l'accusation portée contre Rabin d'avoir gouverné avec une majorité comprenant les députés arabes israéliens, d'où l'accusation qui était faite de n'avoir que la minorité des électorats juifs pour lui. Et donc, depuis cette date, aucun gouvernement israélien ne veut se retrouver dans cette situation. Il est ambigu en matière de colonisation, promettant de ne pas étouffer la colonisation. Il n'en est pas de même sur les questions de société. Il tente une coalition qui regrouperait à la fois les sécularistes affirmés du Meretz et les religieux du Chass. Or, cette cohabitation est évidemment difficile. D'autant plus que Barak pose comme condition que Arié Dery, le chef du Chass, accusé de corruption et qui est en procédure de justice pour corruption, soit exclu de la direction du Chass. Cette opposition correspond aussi à une opposition entre juifs séfarades, de nature très religieuse, et les juifs originaires d'Europe, les Ashkénazes, sous-entendu, quand on dit les Ashkénazes, dans le cas précis, il s'agit des juifs originaires d'Europe orientale d'avant 1948, et les juifs originaires d'Europe, que l'on appelle les Russes, pour simplifier les choses, c'est-à-dire ceux qui ont immigré après 1990, le fait étant qu'après des décennies de régime soviétique, les Russes ont perdu l'essentiel de la culture juive à cause de la pression des institutions soviétiques. En tout cas, un des premiers gestes de Barak est d'autoriser un agrandissement de la colonie juive de Maale Edoumin qui devient contigu de la municipalité du Grand Jérusalem, en disant qu'il ne fait que suivre un plan d'urbanisme adopté à l'époque de Rabin. Non, c'est, pardon, c'est Netanyahou qui, pendant la transition, qui fait ça, et Barak refuse de prendre une position publique. Il faut dire qu'en fait, Barak est plutôt d'accord à cette mesure qui élargit la barrière, en quelque sorte, qui est en train de couper en deux la Cisjordanie, puisque la colonisation juive va de plus en plus dans un sens allant de Jérusalem jusqu'au Jourdain, donc divisant en deux la Cisjordanie. L'autorité palestinienne en appelle aux Américains, qui font la sourde oreille, et des manifestations sont organisées à Jérusalem avec une dure répression de la police. Là, vous voyez Hanan Ashrawi et Faisal El-Husseini attrapés par la police israélienne. Le 3 juin, un jour de la colère contre la colonisation est organisé et le bilan est d'un mort israélien. Au Liban Sud, toujours dans la même période, l'ALS, qui est de plus en plus affaiblie, l'armée du Liban Sud, annonce qu'elle est décidée d'évacuer l'enclave de Jézine, occupée en 1985 et qui officiellement ne fait pas partie de la zone de sécurité. Le gouvernement israélien donne son accord à ce qui peut paraître comme la première étape d'un retrait global. Et la milice commence donc dès la fin mai à démanteler ses installations, comme vous pouvez le voir sur cette photo. La communauté internationale s'inquiète du risque de représailles après le retrait. On se souvient des terribles violences qui avaient accompagné le retrait israélien de 1984, ce qui avait justifié en quelque sorte l'installation de l'ALS à Jézine, donc cette grosse bourgade chrétienne, pour protéger les habitants. L'État libanais et le Hezbollah s'en tiennent à une position légaliste. Les membres de l'ALS qui resteraient dans la zone de Jézine seront traduits devant les tribunaux, mais il n'est pas question, en dépit des avertissements israéliens, d'interdire à la résistance islamique d'opérer à partir du territoire libéré. Et si l'armée israélienne s'en prend à la population civile, il y aura représailles, selon la syntaxe habituelle, sur la Galilée. En tout cas, le retrait s'opère sous le feu du Hezbollah, tandis que l'aviation israélienne intervient pour protéger les miliciens qui évacuent la ville le 3 juin 1999. 200 miliciens se livrent aux autorités officielles libanaises et passeront devant les tribunaux. Le premier ministre libanais, puis le président de la République, se rendent sous les lieux où ils sont reçus dans une atmosphère de liesse populaire. Là, vous avez le président Lahoud, Serail de Jézine, salué par la foule. La leçon de l'événement est claire. Une fois la décision de retrait annoncée, il n'est pas possible d'y procéder de façon échelonnée. L'impression exercée par le Hezbollah oblige à un départ accéléré avec abandon du matériel militaire. En tout cas, l'État libanais et la résistance islamique agissent avec habileté en utilisant les tribunaux. Les miliciens les moins compromis sont punis de quelques mois de prison, voire de peines plus faibles, ce qui est une annonce de ce qui se passera pour le retrait du reste de la zone occupée. Je me rappelle, à l'époque, il y a eu le débat était très fort parce que l'ambassade de France à Beyrouth croyait qu'il y aurait des terribles représailles, tandis que nous l'avons expliqué qu'on procéderait de façon légale, sans représailles particulières. Et bon, pour une fois, on avait eu raison, mais on n'a pas fait exprès. En tout cas, ce qui reste de l'ALS est très affaibli, puisque de toute façon, Barak a confirmé le futur retrait du Liban Sud et donc l'abandon de l'ALS. Au Liban, on se continue à se battre avec les représailles, des représailles, des représailles. Et de fait, la population du nord d'Israël se sent pris en otage du conflit netanyahou-libanais. Le gouvernement de Netanyahou se lance dans une escalade le 24 juin en se prenant aux infrastructures civiles libanaises, dont une centrale électrique dans la périphérie de Beyrouth et des ponts routiers. Le bilan de cette flambée de violence est de 10 morts libanais et 2 israéliens. Alors en Israël, après 3 semaines de consultations, il devient clair que les partis politiques préfèrent s'en tenir à leur position idéologique plutôt que de faire des compromis pour forger une grande coalition. Finalement, la démission d'Aryeh Deri le 15 juin lève l'un des principaux obstacles, mais il reste à attribuer les ministères, ce qui n'est pas la moindre affaire du fait des ambitions personnelles, sans parler de la fonction clé de ministre de l'Intérieur, qui régit entre autres les dossiers de nationalité, et qui, dans les gouvernements précédents, était tenu par le chasse, donc qui mettait une orientation religieuse, et que les Russes exigent d'avoir. Alors Barak fait du chantage auprès des partis en disant que s'ils ne s'entendent pas, bien il fera un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Toujours dans ce contexte, la fin de la guerre du Kosovo à la mi-juin 1999 laisse espérer une plus grande implication américaine dans le processus de paix. Assad envoie un signal positif en accordant une interview au journaliste britannique Patrick Sill, dans laquelle il décrit Barak comme étant un homme fort et honnête qui dispose de toute évidence d'un large soutien et dont il est clair qu'il veut arriver à la paix avec la Syrie. C'est un changement certain qui montre un réel désir de paix. D'ailleurs, non seulement Patrick Sill fait des déclarations, transfère les déclarations publiques de Assad, mais il fait aussi des missions de messager entre Hafez al-Assad et Ruth Barak, c'est un bon ami à moi, et donc il m'a raconté les détails de ces communications entre Assad et Barak. Peut-être un jour qu'il écrira tout cela. En tout cas, l'exigence syrienne est claire et nette. La Syrie est prête à reprendre les négociations là où elles se sont arrêtées dans le round précédent. Et Barak répond de façon contournée. À la fin juin, donc là vous avez les noms propres, vous avez les contours de la nouvelle coalition, donc qui va du Meretz au parti religieux, comprenant donc 75 députés, les 10 députés arabes étant à l'extérieur de la coalition, et l'opposition, elle, ne regroupant que tous les partis nationalistes. C'est tout à fait hétéroclite, même si la majorité est très forte, de 75 sièges sur 120. La composition du gouvernement est annoncée le 5 juillet. Barak sera Premier ministre et ministre de la Défense, au moins à titre temporaire. 4 autres portefeuilles lui seront donnés. Donc il a 5 portefeuilles, mais c'est à titre temporaire avant de pouvoir désigner des ministres. David Levy est ministre des Affaires étrangères, Shlomo Ben Ami, ministre de la Sécurité intérieure. Donc Shlomo Ben Ami, c'est la personnalité montante chez les travaillistes séfarades. Il est originaire du Maroc. C'est un universitaire spécialiste de l'Espagne. Sharansky à l'intérieur, c'est donc la victoire des Russes sur cette revendication. Bailin, le partisan de la paix à la justice. Shimon Peres, la coopération régionale, ça ne veut dire pas grand-chose. Mordechai, les transports. Yossi Sarid, du Meretz, l'éducation. Les religieux ont obtenu le maintien du statu quo qui leur est favorable. Première constatation, l'ancienne équipe du processus de paix se trouve marginalisée, c'est-à-dire Bailin et Peres. Baring veut concentrer l'essentiel de la négociation sur sa personne. De même, il a plutôt désigné pour les postes de responsabilité des hommes qui lui sont loyaux, ce qui a provoqué un certain mécontentement dans la vieille garde travailliste. Mais le gouvernement est investi sans problème le 7 juillet. Baring sait qu'il est attendu sur la scène internationale. Il veut agir vite et fort en homme issu des commandos de l'armée. Il reprend le discours de la paix des braves, venu du verbe gaulien et utilisé par Arafat et Assad. Il tend la main aux dirigeants arabes sans donner de priorité au dossier à aborder. Avant de se rendre aux États-Unis, il prend rendez-vous successivement avec Moubarak, Arafat et Abdallah II, et marque sa volonté de mettre de côté les accords de Wye pour passer directement aux négociations finales, un accord cadre devant être obtenu dans les 15 mois. La position palestinienne est nette et claire. Il faut d'abord appliquer tous les accords avant de négocier sur le statut final. Néanmoins, Arafat en public se déclare optimiste. Aux États-Unis, un facteur nouveau est la volonté d'Hillary Clinton de se présenter aux élections sénatoriales de l'État de New York. Certes, dans le passé, la première dame s'était prononcée en faveur de la constitution d'un État palestinien, mais maintenant, elle doit satisfaire l'important électorat juif de sa future circonscription. Ça va jusque dans certains coins jusqu'à un quart de l'électorat est juif dans la circonscription d'Hillary Clinton. Donc, maintenant, elle considère publiquement que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible d'Israël et qu'elle est favorable au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à la ville sainte. C'est bien sûr une position personnelle, mais son mari lui en doit suffisamment pour tenir compte de ses intérêts. Donc, à partir de ce moment-là, la ligne politique américaine doit intégrer le facteur de l'élection sénatoriale de l'État de New York. Le 14 juillet 1999, Barack arrive aux États-Unis pour une visite officielle de 6 jours. Il a marqué son intention de traiter directement avec le président, passant par-dessus le secrétaire d'État et de Denis Ross, qui apprécie peu. Il passe la journée du 15 juillet avec Clinton, lui expliquant sa volonté de passer immédiatement aux négociations sur le statut final et marque son refus d'un retrait israélien complet du Golan. Le président est impressionné par la détermination de son interlocuteur d'arriver rapidement à une solution avant la fin de son propre mandat. Au fond de lui-même, Clinton s'inquiète de la fragilité de la coalition gouvernementale israélienne et du risque provoqué par une renégociation de l'accord de Wye, Plantation, de Wye, disons tout, Arafat risquant de faire obstruction. Pour Arafat, Barak est non pas l'héritier de Rabin, mais le continuateur de Netanyahou. Ensuite, Barak discute avec Albright et Ross et leur explique que pour maintenir sa large coalition, il lui faut négocier en position de force, c'est-à-dire ne pas faire dès le début ce qui pourrait apparaître être des concessions. Ses interlocuteurs les préviennent, le risque est de s'aliéner immédiatement les Syriens et les Palestiniens. Il faudrait établir un canal secret de communication avec Arafat pour le rassurer et lui offrir des douceurs, sweeteners, pour le faire patienter. Quant à la Syrie, Ross cherche un équivalent au dépôt de Rabin, un retrait israélien qui ne remettrait pas en cause l'accès aux ressources en eau du Golan. Douche froide pour ses interlocuteurs, Barak chiffre le coût de la paix à 23 milliards de dollars pour Israël, plus 10 milliards de garanties bancaires, 5 milliards pour les Palestiniens et une somme substantielle pour les Syriens afin de les réorienter vers les États-Unis. Donc ça fait une très grosse addition. Clinton, consulté, juge que ce n'est pas impossible si la paix est bien obtenue. Il est impensable alors que les républicains s'y opposent. Puis à cette époque-là, époque heureuse, il faut le rappeler, les finances américaines sont particulièrement prospères puisque à la fin de l'époque Clinton, la solde du budget américain est positif. Ce qui fait que l'endettement américain se réduit rapidement, ce qui est aussi impensable pour un temps court, mais on pensait que d'ici 15 ans, les États-Unis, à ce rythme-là, n'auraient plus de dette. Alors, évidemment, il y a une certaine tension, puisque Barack veut traiter directement avec Clinton en court-circuitant le département d'État. Et en même temps, le rôle américain revient au rôle de facilitateur et non plus de médiateur et d'arbitre, contrairement à la période Netanyahou. Ainsi, Barak voudrait qu'on arrête le rôle de la CIA qui surveille l'application des accords. Parce qu'il est vrai que la CIA, en tant qu'arbitre, tend en général à adopter les positions palestiniennes et non pas les positions israéliennes. Alors, par ailleurs, Clinton téléphone à Arafat pour lui dire que tout va bien et qu'il faut et que Barak s'est engagé à respecter les accords de Hawaï. Barak aurait dû rencontrer Arafat le 24 juillet. Mais la mort de Hassan II du Maroc, le 23, bouleverse le calendrier. Les deux hommes doivent se rendre à Rabat pour les funérailles le 25 juillet. Le premier ministre israélien est bien reçu par les délégations arabes. Le président algérien Bouteflika, réputé pour être un radical, lui parle même devant la télévision israélienne. Mais en revanche, Hafez al-Assad n'est pas venu, soit pour des raisons de santé, soit pour ne pas avoir à rencontrer Barak, soit pour les deux. Donc, la rencontre entre Arafat et Barak a lieu le 27 juillet à Eretz. Le Palestinien refuse tout report des accords et on décide que les délégations des deux parties doivent en discuter. Dès le début d'août, la crise est patente, puisque Israël ne propose qu'une application partielle de l'accord de Hawaï, tandis que les Palestiniens en exigent l'application complète. Barak les accuse de rigidité. Ils ne comprennent pas sa vision à long terme. S'il rend tous les territoires promis par Hawaï, des colonies juives se retrouveront enclavées en Cisjordanie, créant ainsi des points de conflit potentiels qui pourraient mettre en danger un accord définitif, c'est-à-dire mettre en danger la cohésion de la majorité gouvernementale israélienne. Mais au-delà de cela, pour Barak, appliquer les accords serait perdre des cartes essentielles pour le marchandage final. Les Palestiniens appliqueraient la tactique du salami, privant progressivement les Israéliens de leurs atouts maîtres. Rance, lui, s'inquiète parce que Barak est incapable d'offrir une quelconque douceur à Arafat. Mais Albright se refuse à la demande de Barak de se rendre sur place au Proche-Orient pour faire sentir aux Palestiniens qu'ils sont isolés et qu'ils n'ont pas de soutien américain. Alors Ross organise une rencontre secrète des équipes de négociateurs américaines et israéliennes à Zurich les 8 et 9 août. On aborde le dossier palestinien. Ross essaye de faire comprendre qu'offrir un accord Y-, c'est-à-dire moins que les engagements pris, ne pourra pas être accepté par les Palestiniens. Si vraiment il faut gagner du temps, il faut un Y+. Ses interlocuteurs s'en tiennent à leur position, arriver le plus tôt possible à un accord cadre qui permettrait d'intégrer les retraits prévus dans le règlement final. Si on n'y arrive pas, alors on appliquera les accords. Les Palestiniens doivent pouvoir attendre. Même chose dans le dossier syrien. Ross dit qu'il faut une incitation pour que les Syriens négocient, c'est-à-dire le fameux dépôt de Rabin ou son équivalent. Mais les Israéliens affirment qu'il y a des indications montrant qu'Assad pourrait se contenter de moins qu'un retrait sur les lignes du 4 juin 67. Interrogé, il reste vague sur ces informations. On définit une formule ambiguë marquant que la Syrie pourrait récupérer une bonne part du Golan sans donner des précisions sur les lignes. Ensuite, en Palestine, la négociation reprend entre l'équipe des négociateurs palestiniens dirigée par Saeb Erekat et l'israélienne par Gilead Shear, un juriste proche de Barak. Les Américains sont tenus constamment au courant par téléphone. En même temps, les Égyptiens font leur propre médiation. Les discussions sont âpres. Les Israéliens refusent de modifier la position sur la question des prisonniers et s'en tiennent à la doctrine très restrictive définie par Netanyahou. On discute sur le sens à donner au mot « accord cadre », sur la notion de statu quo qui interdirait aux Palestiniens de proclamer leur indépendance. En revanche, on progresse dans le dossier de la liberté de circulation des Palestiniens. On se met d'accord pour la signature d'un accord chargé d'appliquer l'accord qui était chargé d'appliquer l'accord lors de la prochaine visite d'Albright au Proche-Orient prévue pour le mois de septembre. Le 10 août, une série d'incidents fait 3 morts israéliens dans les territoires, ce qui fait craindre un risque de reprise de la violence, mais l'autorité palestinienne coordonne bien son action avec la police israélienne. Autre problème qui se pose, c'est celui du Haram al-Sharif à Jérusalem. Les autorités du Waqf qui administrent le Haram ont entrepris des travaux sans demander la permission préalable au service des antiquités israélien, ce qui équivaut à un refus de reconnaître la souveraineté israélienne. Les travaux non autorisés sont interdits, mais pour ceux qui ont reçu une permission, se pose la question de la préservation des vestiges supposés datés de la période du Second Temple. C'est-à-dire que les travaux qui sont entrepris par le Waqf consistent à créer une troisième mosquée souterraine à partir de galeries qui existe déjà depuis des siècles cet endroit. Donc, parmi les déblais, il y a certainement des déblais ayant une valeur archéologique pour les périodes très anciennes, ce qui provoque le désespoir des archéologues israéliens puisqu'ils ne peuvent pas exploiter la stratigraphie de ces déblais. Au Liban Sud, le 17 août, 3 soldats israéliens sont tués, les premiers depuis l'accession au pouvoir de Barak, et les combats s'intensifient avec le jeu habituel. Le 1er septembre, après des bombardements, 3 miliciens de la LS sont tués, les Israéliens bombardent des villages avoisinants à zone de sécurité, faisant des victimes civiles, et le Hezbollah bombarde la Galilée. Le même 1er septembre, les négociations israélo-palestiniennes se poursuivent à la veille de l'arrivée de Madeleine Albright. La principale difficulté est la question des libérations des prisonniers. Tout le monde joue la montre. Donc, tout ça se bloque et finalement, Madeleine Albright intervient et fait la navette entre les deux parties. Après avoir satisfait la dramaturgie destinée à montrer à chacune des opinions publiques combien on défend fermement les positions vitales, on signe dans la nuit du 4 au 5 septembre l'accord à Sharm el-Sheikh. Donc vous avez la photo de la signature de l'accord. Abdallah II, Moubarak et Albright mettent leur paraphe en tant que témoins. L'accord est officiellement daté du 4 septembre. Donc, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Sharm el-Sheikh, qui, si vous le comprenez très bien, est un mémorandum explicatif des accords de Wai, qui sont eux-mêmes explicatifs d'Oslo II. C'est-à-dire qu'on continue toujours de renégocier le même texte. On affirme qu'on va passer aux négociations sur le statut permanent pour faire un accord cadre dans un délai de 5 mois à partir de la reprise des négociations, que d'ici un an, on aura un accord sur le statut permanent. On fixe un nouveau calendrier des redéploiements prévus de l'armée israélienne, le 5 septembre 1999, transfert de 7% de la zone C à la zone B, le 15 novembre, transfert de 2% de la zone B à la zone A, de 3% de la zone C à la zone B, le 20 janvier, transfert de 1% de la zone C à la zone A et de 5,1% de la zone B à la zone A. Enfin, quand on dit toujours 5%, c'est en pourcentage de la Cisjordanie. Les textes ne sont jamais clairs quand on vous les présente. Il y a toujours de la Cisjordanie qui est sous-entendue. On fera un comité mixte pour faire une liste des prisonniers à libérer, d'abord 200, puis 150, puis d'autres noms, si possible avant le prochain Ramadan. On rétablit les comités mixtes prévus par les accords à partir du 13 septembre et on établira une voie de passage sûre entre Gaza et la Cisjordanie. Et on autorisera la construction du port de Gaza ainsi que le fonctionnement de l'aéroport de Gaza. Et puis on reprend tout le discours sécuritaire sur la coopération, sur le désarmement de la population palestinienne, sur la diminution du chiffre de la police palestinienne, etc. La signature du mémorandum est saluée par la communauté internationale, mais accompagnée de 2 attentats à Tibériade et Haïfa qui font 3 victimes. Mais heureusement, il ne s'agit que des poseurs de bombes qui sont des Arabes israéliens, ce qui disculpe l'autorité palestinienne. En revanche, le gouvernement israélien s'inquiète de la désaffection de plus en plus nette de la population arabe israélienne envers l'État d'Israël. Dégradation continue depuis la mort de Rabin, qui avait marqué au contraire un moment d'unité nationale en Israël entre juifs et arabes israéliens. L'accord de Sharm el-Sheikh est ratifié par le gouvernement israélien puis par la Knesset, mais en même temps, puisque s'agit du mois de septembre, c'est-à-dire la série des fêtes juives, les territoires palestiniens sont sous bouclage. la libération des prisonniers commence le 9 septembre dans la joie populaire. Les critères choisis sont une promesse de renoncement à la violence, de ne pas avoir tué des Israéliens, de ne pas appartenir au Hamas ou au djihad islamique, de ne pas être résident à Jérusalem, d'avoir commis les actes avant la signature d'Oslo. Le transfert de 7% à la zone B débute le 10 septembre, donc tout va bien. Le 13 septembre, comme prévu, les commissions destinées à négocier le statut final débarquent ces travaux. C'est Mahmoud Abbas, Abou Mazen, qui dirige la délégation palestinienne. Mais tout ça est simplement protocolaire. Dès le lendemain, Barak annonce le renforcement du plus grand bloc de colonies à proximité de Jérusalem, ce qui provoque la colère des Palestiniens qui voient une provocation. Dès le départ, se pose un débat sémantique, enfin technique, sur l'accord, qui savoir qu'est-ce que veut dire Cisjordanie. Si vous prenez Cisjordanie au sens des territoires occupés par Israël en juin 1967, cela comprend Jérusalem et le Grand Jérusalem, c'est-à-dire le Jérusalem étendu par Israël lors de l'occupation. Mais s'il prend Cisjordanie au sens des Israéliens, ça ne comprend pas le Grand Jérusalem. Donc quand on parle de pourcentage de la Cisjordanie, les pourcentages changent si on intègre ou non le Grand Jérusalem dans le calcul. 16 septembre, Arafat rencontre Barak sans arriver à une avancée notable. Il n'y a pas de relation personnelle entre les deux hommes, contrairement à l'époque de Rabin. Rabin est important, Barak comprend que s'il ne fait pas des progrès rapides, le compte à rebours ne sera pas vers un règlement de paix, mais vers une nouvelle flambée de la violence. C'est dans cette période qu'il va commencer à utiliser dans son entourage une comparaison avec le Titanic, en disant « nous risquons d'aller droit sur l'iceberg ». Il faut comprendre, c'est le moment où le film Titanic est sorti et tout le monde est très impressionné par cette image. De plus, il y a le risque de voir une situation similaire à celle des Balkans émerger. Il y a une fenêtre d'opportunité pour la paix, mais elle risque de ne pas durer éternellement. Mais on reste sur les quatre noms de Barak, Jérusalem, les blocs de colonisation, pas de retour, de droit au retour des réfugiés, pas de retour aux lignes du 4 juin. De ce fait, les travaux des commissions tournent à vide et les Palestiniens en refusent un nouveau règlement temporaire, remettant à une date ultérieure la solution des questions les plus difficiles. Ils ont accepté un délai pour la réalisation des derniers engagements prévus à Hawaï, afin de permettre que l'on traite simultanément du règlement final. Or, ils ne voient rien venir. Ils se méfient déjà de Barak, parce que Barak s'était montré hostile à Oslo 1 et 2, enfin s'était opposé à Oslo 1 et 2 quand il était chef d'état-major de l'armée israélienne, et il ne fait qu'intensifier la colonisation. De plus, Barak, visiblement, privilégie l'option syrienne sur l'option palestinienne. Depuis la reprise des négociations, la faiblesse institutionnelle de l'autorité palestinienne devient criante. Arafat concentre tout sur sa personne, du détail le plus trivial jusqu'aux questions de fond. Les négociateurs palestiniens manquent de préparation. Leurs dossiers sont peu préparés et leurs connaissances juridiques sont lacunaires. Hâtivement, on est allé recruter des juristes dans la diaspora palestinienne. Durant l'été 1999, l'Union européenne a accepté de financer un programme de l'Adam Smith Institute de Londres, chargé de fournir des conseillers juridiques pour la négociation internationale. C'est le début de la Negotiation Support Unit, NSU, dont le financement externe montre la fragilité de l'autorité palestinienne, puisque l'équipe technique chargée de préparer le dossier palestinien est financée par l'Union européenne. De surcroît, ces conseillers ne peuvent résider en Palestine qu'avec des visas de tourisme, ce qui les met en permanence devant un risque d'expulsion ordonné par le gouvernement israélien, ce qui ne se prive pas si tel conseiller leur paraît trop dur ou trop récalcitrant, et il lui supprime le visa. Courageusement, les conseillers de la NSU se mettent au travail et découvrent le terrible désordre bureaucratique engendré par les méthodes de travail d'Arafat. Alors, la NSU continue d'exister aujourd'hui, c'est elle qui travaille à fond tous les dossiers dans la négociation actuelle, ce qui fait que dans les rounds successifs de négociation à l'époque d'Olmert, puis maintenant, les Palestiniens arrivent avec des dossiers bien mieux préparés que dans la période précédente. Alors, il y a un excellent livre, j'ai plus le nom de l'auteur, Ziad Klot, Il n'y aura pas d'État palestinien, qui raconte les souvenirs d'un Français d'origine palestinienne, membre de la NSU, pour la période en dehors de notre cours, mais qui est un livre très instructif sur les processus de négociation. En tout cas, on s'aperçoit que, durant son mandat, Netanyahou avait tenté d'ouvrir un canal secret de communication avec Damas. Et pour cette fois, exceptionnellement, Assad a accepté. L'homme d'affaires et ancien ambassadeur Ronald Lauder, les parfums, Lauder, ami personnel de Barak, a accepté de servir d'intermédiaire. Il s'est rendu en 1998 à plusieurs reprises dans la capitale syrienne et a eu des contacts au plus haut niveau. L'administration Clinton n'a pas été informée de ces démarches. Néanmoins, le gouvernement syrien a considéré sérieusement cette tentative au point d'étudier une ébauche de traité de paix. Comme on pouvait s'y attendre, l'échec est venu de la question territoriale. Netanyahou a été incapable de fournir une carte précise des exigences territoriales d'Israël. Ariel Sharon se serait ensuite opposé à la transmission du document qui aurait engagé la politique israélienne. Une négociation du même genre avait été menée en parallèle par Miguel Moratinos, l'émissaire européen au Proche-Orient. Les Européens avaient fourni la couverture nécessaire pour les discussions informelles, puis les Américains auraient repris le relais. Un document de travail, non-paper, a été élaboré comprenant l'acceptation par les Syriens de la présence de stations d'alerte et l'établissement d'une relation avec la question du Liban Sud. On n'est pas allé plus loin du fait de la faiblesse du gouvernement Netanyahou et de l'organisation d'élections anticipées. Quand Barak a pris ses fonctions, Lauder lui a affirmé qu'Assad était prêt à accepter comme base de négociation la frontière mandataire de 1923 et non les lignes du 4 juin 1967. Je rappelle qu'en 1948, les Syriens avaient tenu une partie du territoire palestinien. Ils en avaient rétrocédé une partie lors de l'accord d'armistice de 1949 et dans la période suivante de 1949 à 1967, les Israéliens avaient grignoté une partie de la zone tenue par les Syriens à l'intérieur de la Palestine mandataire. Ce qui fait qu'on a trois lignes. On a la ligne définie par la frontière mandataire, dite frontière internationale de 1923, séparant la Palestine de la Syrie, suite à un accord franco-britannique. On a la ligne définie par l'accord d'armistice de 1949, qui est une ligne bien précisée, puisque l'accord d'armistice trace la ligne. Et puis, on a cette fameuse ligne du 4 juin 67, qui est intermédiaire entre la ligne de l'accord d'armistice et la frontière internationale, et dont les contours ne sont pas très précis, parce qu'il faut arriver à se rappeler où se trouvait la ligne le 4 juin 67. Elle n'est pas marquée dans un document, contrairement aux deux autres lignes. Et la question essentielle est l'accès de la Syrie au lac de Tibériade. Là, il faut comprendre qu'en dehors de l'aspect militaire de 1949 et de 1967, il faut revenir à, avant 14, la province ottomane de Damas allait jusqu'au lac de Tibériade. Alors que les Français ont cédé une bande de 10 mètres le long du lac de Tibériade à la Palestine lors de l'accord de 1923. Ce qui, pour les Syriens, a été une trahison par la France des intérêts de la Syrie. C'est-à-dire que même avant 1948, il y avait un irrédentisme syrien sur l'accès au lac. Or, les combats de 1948 ont donné aux Syriens l'accès au lac. D'où l'enjeu. Et en même temps, évidemment, les Palestiniens, les Israéliens ne veulent pas entendre parler d'un retour des Syriens à l'accès au lac. Ils veulent au minimum la bande des 10 mètres prévue par la frontière internationale. Le tout étant compliqué par un accord de bon voisinage négocié par la France et la Grande-Bretagne dans les années 1920 entre les deux mandats. L'accord de bon voisinage donnant le droit aux Syriens de passer la bande des 10 mètres pour se servir dans le lac pour leurs intérêts normaux, prendre un peu d'eau, pêcher, nager, etc. Donc, vous voyez la complexité du dossier. Donc, c'est à partir de l'information fournie par la ODER que Assad accepterait la frontière internationale et pas la ligne du 4 juin, que Barak voudrait négocier. En même temps, Barak a axé dans sa campagne électorale sur le fait que, de toute façon, il retirerait l'armée israélienne du Liban Sud. Et donc, il comprend bien que pouvoir retirer dans des bonnes conditions l'armée israélienne du Liban Sud, il faut avoir un accord avec Damas, donc signer la paix avec la Syrie. De toute façon, Barak est avant tout un militaire et il sait que l'armée syrienne est la plus importante à la frontière d'Israël. Donc, en tant que calcul des rapports de force, il veut neutraliser l'armée syrienne de façon définitive par un accord de paix, puisque le terrorisme palestinien est une nuisance douloureuse, mais pas une menace existentielle. Enfin, Assad est un ennemi qui dispose de moyens considérables, mais qui a la réputation de tenir ses engagements, comme le montre la situation sur le Golan depuis 1974. Il est tout le contraire d'Arafat. Obtenir un accord avec la Syrie affaiblirait encore plus la position des Palestiniens dans la négociation finale. Donc, sur cette base que Barak veut ouvrir la négociation avec la Syrie. Va-t-il y arriver ? Vous le saurez à la prochaine session, puisque nous faisons notre pause.